comme je vous le disais tout à l'heure, on va profiter de... Voilà, c'est la semaine de l'Ascension pour parler justement de cette fête. Et j'ai choisi comme titre, c'est une allusion à une collection qui existe de petits livres, sur tout un tas de sujets avec voilà, la Bible, qu'est-ce que ça change, etc. aux éditions Labor et Fides. C'est une collection que j'aime bien et je trouvais l'idée de se poser la question de cette façon assez intéressante. L'Ascension, on connaît, on sait, on en a parlé, voilà, c'est quelque chose qui revient, mais finalement, qu'est-ce que ça change? Pourquoi est-ce que c'est si important de se souvenir que le chemin ne s'arrête pas à la crucifixion, ne s'arrête pas même à la résurrection, mais qu'il y a encore des choses après, et qu'il y a notamment l'Ascension, et on verra aussi que ça va avec le fait que Jésus-Christ est assis aussi sur le trône, comme on l'a rappelé ce matin. Et souvent, on a l'impression que l'Ascension s'est perçue surtout comme un retrait. Et je pense qu'il y a beaucoup de chrétiens qui ne sont pas tout à fait à l'aise avec l'idée de l'Ascension, parce que c'est le rappel que Jésus est parti. Et on préfère se souvenir qu'il est présent avec nous. Alors peut-être qu'on a un peu de mal avec cette fête, ça nous rappelle la réalité qui est la nôtre du pas encore. On n'est pas encore vraiment dans la présence de Jésus-Christ. Alors on dit oui, il est présent parmi nous quand on est rassemblés, il nous accompagne par son esprit, et ça on en parlera à la Pentecôte, et on préfère la Pentecôte, parce que la Pentecôte c'est la présence, c'est l'envoi de l'Esprit-Saint qui est bien présent avec nous. Alors on aimerait peut-être oublier cette fête de l'Ascension entre les deux, et se dire, mais voilà, Jésus-Christ nous a laissé le Saint-Esprit un petit peu comme un lot de consolation, celui qui vient nous consoler littéralement, et donc on se souvient surtout de cette fête, et l'Ascension, c'est pas trop quoi en faire. Et ce que j'aimerais souligner aujourd'hui, c'est vraiment l'idée que l'Ascension, c'est pas tellement une absence, mais c'est plutôt une nouvelle forme de présence, une nouvelle forme de présence souveraine. Et si la résurrection, c'est bien la victoire sur la mort, l'Ascension, qui s'accompagne aussi de la réalité de ce qu'on appelle la cession de Christ, le fait que Jésus-Christ s'assoit et est assis à côté du Père, à la droite de Dieu, c'est l'installation du vainqueur sur son trône, comme on l'a rappelé ce matin. Et sans l'Ascension, en réalité, le salut n'est pas tout à fait achevé. Parce que le but de Dieu, ce n'était pas simplement de nous pardonner. C'était aussi de ramener l'humanité dans la présence immédiate du Père. Et donc ça va avec la résurrection, d'avoir cette idée de l'Ascension, et on verra que c'est bien l'idée d'une humanité, l'humanité qui rentre dans la présence de Dieu. Alors, je vais commencer par relire quelques passages dans le Nouveau Testament qui rappellent les faits, ou qui rappellent voilà, ce que dit la Bible sur l'Ascension. Et puis ensuite, je vous proposerai d'étudier trois visages, trois aspects du Christ élevé, qui il est dans le ciel et qu'est-ce qu'il y fait. Et puis, on terminera avec des applications. Pourquoi est-ce que c'est important? Qu'est-ce que ça change pour nous de connaître ces choses sur le devenir de Jésus-Christ après la résurrection? Alors d'abord, à propos de l'Ascension, ce qu'on peut rappeler, c'est que c'est quelque chose qui a été annoncé à plusieurs reprises par Jésus à ses disciples. Donc je lirai quelques textes. Hein, dans Jean 6, par exemple, il dit « Et si vous voyez le Fils de l'homme monter où il était auparavant ?» Donc il commence à faire une allusion au fait qu'il va retrouver sa gloire. Et puis en Jean 14, on peut aussi y voir une allusion « Il y a beaucoup de demeures dans la maison de mon Père, sinon vous aurais-je dit que je vais vous préparer une place ?» Donc il parle du fait qu'il va retourner auprès de son Père. En Jean 16, il dit « Maintenant, je m'en vais vers celui qui m'a envoyé, et aucun de vous ne me demande « Où vas-tu ?» Voilà, donc il a encore une annonce sur le retour auprès du Père. Et puis en Jean 20, verset 17, Jésus dit « Cesse, c'est dans la rencontre avec Marie-Madeleine, « Cesse de t'accrocher à moi. » Ne me touche pas, car je ne suis pas encore monté vers le Père. Mais va vers mes frères et dis-leur que je monte vers celui qui est mon Père et votre Père, mon Dieu et votre Dieu. » Voilà, cette annonce aussi à Marie, à Marie-Madeleine, du fait qu'il va monter auprès du Père. Donc ça, une réalité qui est annoncée, et aussi une vérité qui est une vérité publique, dans le sens où il y a des témoins oculaires, et notamment Luc, qui vont rapporter ces événements. Mais j'ai choisi non pas de me concentrer. Alors Luc 24, je vous renvoie au message de l'année dernière de Joël sur l'étude du chapitre 24 de Luc. Donc je ne vais pas m'attarder sur l'évangile selon Luc, mais j'ai choisi de citer d'autres textes. Puis, bon, puisque Luc est quand même celui qui le rapporte le mieux, je resterai avec Luc, mais pas dans l'évangile, mais avec les actes des apôtres dans un moment. Mais à propos de l'ascension, on voit que Marc en parle aussi, hein, en disant « Le Seigneur Jésus, après leur avoir parlé, fut enlevé au ciel et il s'assit à la droite de Dieu. » Alors c'est dans chapitre 16, hein, on débat sur chapitre 16, mais il y a quand même ce récit de l'ascension, ce rappel de l'ascension dans Marc 16. Et puis l'apôtre Paul en parle un petit peu aussi, notamment dans les Éphésiens, c'est pourquoi il dit « Il est monté dans la hauteur, il a emmené des captifs, il a fait des dons aux humains. » Or, que signifie « il est monté » sinon qu'il est aussi descendu dans les régions inférieures sur la terre. Celui qui est descendu, c'est le même qui est monté au-dessus de tous les cieux afin de remplir tout. Ouais, donc, on voit que l'apôtre Paul lui-même a cité ces faits, a raconté qu'il y a bien eu ce phénomène de l'ascension. Donc, on a plusieurs témoins. C'est pas que Luc qui raconte ça, donc on peut se dire, bah, puisqu'il y a au moins deux ou trois témoins, c'est une chose qui semble être avérée. Si on regarde, donc je vous laisserai lire Luc 24 de votre côté, mais il y a ce récit dans les Actes des Apôtres sur lequel je passerai plus de temps, où Luc aussi raconte l'ascension. Et je lirai les 11 premiers versets du premier chapitre des Actes des Apôtres. Cher Théophile, j'ai parlé dans mon premier livre de tout ce que Jésus a commencé de faire et d'enseigner, jusqu'au jour où il fut enlevé, après avoir donné ses ordres par l'Esprit Saint aux apôtres qu'il avait choisis. C'est à eux aussi qu'avec beaucoup de preuves, il se présenta vivant, après avoir souffert. Il leur apparut pendant 40 jours, parlant du règne de Dieu. Comme il se trouvait avec eux, il leur enjoignit de ne pas s'éloigner de Jérusalem, mais d'attendre ce que le Père avait promis, ce dont, leur dit-il, vous m'avez entendu parler. Jean a baptisé d'eau, mais vous, c'est un baptême dans l'Esprit Saint que vous recevrez d'ici peu de jours. Ceux qui s'étaient réunis lui demandaient, « Seigneur, est-ce en ce temps-ci que tu vas rétablir le royaume pour Israël ?» Il leur répondit, « Il ne vous appartient pas de connaître les temps ou les moments que le Père a fixés de sa propre autorité. » Mais vous recevrez de la puissance quand l'Esprit Saint viendra sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée et en Samarie, et jusqu'aux extrémités de la terre. » Après avoir dit cela, pendant qu'ils regardaient, il fut élevé et une nuée le déroba à leurs yeux. Et comme ils fixaient le ciel pendant qu'ils s'en allaient, deux hommes en habit blanc se présentèrent à eux et dirent « Hommes de Galilée, pourquoi restez-vous là à scruter le ciel ? Ce Jésus qui a été enlevé au ciel du milieu de vous, viendra de la même manière que vous l'avez vu aller au ciel. » Alors ils retournèrent à Jérusalem, etc. Voilà ce récit de l'ascension au début des Actes des Apôtres, donc aussi sous la plume de Luc. Et c'est le seul auteur, en fait, à donner des détails physiques sur cet événement. Et on voit que Jésus n'a pas simplement disparu spirituellement, c'est pas un moment il était là et puis tout d'un coup on ne le voit plus, il a été en fait enlevé sous les yeux des disciples. Donc c'est bien une vérité publique, dans le sens où c'est ancré dans l'espace, dans le temps, ça a été vu par les disciples, et il y a bien une montée physique de Jésus. Et au verset 3, on lit que tout ça a lieu après 40 jours. Alors, vous savez que dans le calendrier liturgique, on compte depuis Pâques, 40 jours, c'est le jour de l'Ascension, donc le jeudi. Et pourquoi 40 jours ? Alors, 40, c'est un temps qui, dans la Bible, nous revient souvent et nous rappelle des moments de préparation, des moments de transition, mais c'est aussi, dans la Bible, souvent des temps d'épreuve. On pense à Moïse sur le Sinaï, Israël dans le désert, alors c'est pas 40 jours, c'est 40 ans, mais il y a bien ce chiffre 40 aussi. On pense aussi à Jésus qui lui-même dans le désert va rester 40 jours. Donc ce 40, il a une valeur symbolique. Ce n'est pas simplement un chiffre au hasard. Et on l'utilise encore aujourd'hui avec malheureusement la quarantaine. Hein. On se souvient, on met quelqu'un en quarantaine. Ce sont de préparation, ce temps aussi d'épreuve. Et on voit ici que c'est le temps finalement qui était nécessaire pour les disciples pour se préparer à ce que Jésus ne soit plus au milieu d'eux. Se préparer à une dimension nouvelle de la présence de Jésus. Et Jésus les prépare à son départ pendant ces 40 jours pour qu'ils comprennent qu'ils ne vont pas être orphelins, mais qu'ils vont devenir des ambassadeurs et qu'il y aura quelque chose à faire derrière. Donc il y a ce temps avec eux pendant 40 jours et puis l'ascension arrive. Et physiquement, ce que les disciples voient, c'est une nuée. Une nuée, on lit au verset 9, hein, « Il fut élevé et une nuée le déroba à leurs yeux. » Et je pense que pour des juifs, voir une nuée, ce n'est pas anodin. Quand ils voient cette nuée, ils repensent à d'autres nuées qui étaient déjà présentes dans l'Ancien Testament, et notamment celle qu'on voit dans Exode, ce qui s'appelle en hébreu la Shekinah. Donc c'était la gloire de Dieu qui remplissait le tabernacle. Cette nuée qui était bien ce Dieu qu'on pouvait voir physiquement, mais qui symbolisait sa présence par la nuée. Et donc voir une nuée, c'est bien montrer que Jésus, à son tour, entre dans la gloire de Dieu. Et il va là où on ne pouvait pas entrer, c'est-à-dire dans le lieu très saint, le lieu très saint non pas du temple, mais ici le lieu très saint céleste. Donc voir cette nuée, c'est voir que Dieu entre dans la gloire. Et ce récit n'est pas sans lien aussi avec d'autres récits qu'on peut trouver dans l'Ancien Testament, et notamment le récit que fait Daniel de sa vision au chapitre 7, quand il dit « Dans mes visions nocturnes, je vis alors arriver, avec les nuées du ciel, quelqu'un qui ressemblait à un être humain. Il s'avança vers le vieillard, l'ancien des jours, et on le fit approcher de lui. On lui donna la domination, l'honneur et la royauté. Tous les peuples, les nations et les langues se mirent à le servir. » Sa domination durera toujours, elle ne passera pas, et son royaume ne sera jamais détruit. Je pense que quand on lit ce récit, on voit bien le parallèle qu'on peut établir avec ce récit que faisait Daniel de l'entrée d'un homme dans la présence de Dieu. Et en fait, c'est ça qu'il faut comprendre et retenir dans le message de l'Ascension, je crois, c'est que pour la première fois dans l'histoire de l'univers, il y a un humain qui reçoit la domination, la gloire, le règne éternel au nom de toute l'humanité. Alors, on va développer un peu cette idée, mais je crois qu'on peut aussi retenir que, contrairement à ce qu'on avait vu avec Élie, dans l'étude du livre des Rois, qui est enlevé, ici, l'élévation de Jésus a une portée qui est bien plus vaste que ce qu'a vécu Élie. Jésus n'a pas seulement été un prophète qui a été enlevé et qui est rentré dans la présence de Dieu dans le sens où il a été béni et n'est pas passé par la mort. Au contraire, on sait que Jésus, lui, a connu la mort, qu'il l'a vaincu et qu'il est le roi qui va prendre possession de son trône. Donc une dimension qui est bien supérieure à ce que d'autres ont vécu dans l'Ancien Testament en termes d'enlèvement et d'ascension miraculeuse. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire de ces récits? Et qu'est-ce qu'ils nous disent de Jésus-Christ aujourd'hui? Et je le présenterai sous forme trois visages, trois réalités qui sont souvent rappelées de qui est Jésus. D'abord, le roi, le souverain, le roi qui est intronisé et qui va triompher sur les puissances. En deuxième lieu, je parlerai du souverain sacrificateur et de cet office que Jésus a aussi auprès du Père dans le sanctuaire céleste. Et puis, j'en parlerai aussi comme la tête d'un corps qui est encore sur la terre, qui est l'Église, et de cette union vitale qui existe entre Jésus-Christ et nous, et l'Église. Alors tout d'abord, cette première dimension, c'est celle du roi qui est intronisé et qui triomphe sur les puissances. Je lirai un peu plus loin dans les Actes des Apôtres, au chapitre 2, à partir du verset 33. chapitre 2, verset 33. Ce Jésus... pardon, je suis un peu perdu dans mes références. Voilà, élevé par la droite de Dieu, il a reçu du Père l'Esprit Saint qui avait été promis, et il a répandu ce que vous voyez et entendez. Ce n'est pas David, en effet, qui est monté aux cieux, mais il dit lui-même, « Le Seigneur a dit à mon Seigneur, « Assieds-toi à ma droite jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis ton marchepied. » Que toute la maison d'Israël le sache donc bien, Dieu l'a fait Seigneur et Christ, ce Jésus que vous avez crucifié. » Donc c'est le sermon que Pierre fait après la Pentecôte, et il parle de ce qu'est devenu Jésus après la mort et la résurrection. Et il cite ces versets que j'ai mis en gras, qui viennent du psaume 110, un psaume qui est cité de nombreuses fois dans le Nouveau Testament, il me semble 19 fois. Pierre le cite pour prouver que l'exaltation à la droite de Dieu, c'est l'accomplissement de promesses qui avaient été faites dans l'Ancien Testament, l'accomplissement de promesses davidiques, donc qui concernent David et le règne de David. Et donc, il souligne bien que Jésus, aujourd'hui, est Seigneur et Christ. Il est... Dieu l'a fait Seigneur et Christ. Il est bien le Messie et le Roi, en réalité. Et donc, ça nous parle de qui est Dieu aujourd'hui. On l'a bien célébré. C'est le Roi qui est déjà assis sur le trône. Alors, on sait que le royaume n'est pas encore pleinement établi, mais pour autant... ça ne veut pas dire que le royaume n'est pas déjà en train d'être établi. La réalité est bien que Jésus-Christ est assis sur le trône, et donc le royaume a commencé et que Jésus a commencé à régner. Et une autre réalité qui est associée avec cette vérité, qui est que le roi est assis sur son trône, et j'aime bien ce tableau où on voit le Père qui montre le trône, on ne le voit pas bien avec les contrastes, mais en fait, il montre le trône, il dit bien à Jésus de s'asseoir à côté de lui, à sa droite, il lui remet la domination. Une autre réalité qui est associée à ça, c'est qu'il a vaincu les puissances. Et donc, c'est vraiment deux réalités qui sont intimement liées. Et je lirai dans l'Épître aux Éphésiens, au chapitre 4, c'est pourquoi il dit « Il est monté dans la hauteur ». Donc ça, c'est bien l'ascension. Et il a emmené des captifs. Et donc on voit bien cette dimension aussi de victoire sur les puissances. Il a fait des dons aux humains. Ça, j'y reviendrai un peu plus tard sur la distribution des dons. Or, que signifie il est monté, sinon qu'il est aussi descendu dans les régions inférieures sur la terre sans... Voilà, donc on voit bien, il est monté dans la hauteur et il a emmené des captifs. Ce fait de soumettre les puissances dans cette ascension et dans l'accès à la royauté. Et c'est quelque chose qui est une réalité que l'apôtre Paul met en avant et qui est à mettre en parallèle avec une citation donc, du psaume 68. « Tu es monté sur la hauteur, tu as emmené des captifs, tu as prélevé des dons parmi les humains, même rebelles, pour y faire ta demeure, Seigneur Dieu. » Donc là, on a bien cette citation qui nous montre la réalité d'une montée et en même temps de rendre captives les puissances. Et ça, c'est quelque chose qui est assez commun dans l'Antiquité, la description du fait que quand un roi était victorieux et monté en procession, il emmenait à la fois des captifs, il soumettait les captifs et il les désarmait. Et on voit bien que la réalité, c'est celle bien de la fin de l'esclavage du péché, la fin de l'esclavage de la mort et le fait que toute puissance, à la fois sur la terre, dans les cieux, mais aussi sous la terre, sont soumises à la royauté de Jésus-Christ. Et je disais, il y a une autre réalité qui est associée encore, c'est la distribution des dons. Le roi victorieux monte en procession et il fait des cadeaux à ceux qui appartiennent à son peuple. Et lui aussi, Jésus, est monté au ciel, il a triomphé du péché, il a triomphé de la mort, et depuis son trône, il déverse des dons, notamment le Saint-Esprit, dont on aura plus particulièrement un message à propos du Saint-Esprit la semaine prochaine, à propos de la Pentecôte, mais il y a le Saint-Esprit, mais aussi tout un tas d'autres dons qui sont distribués à l'Église et qui sont intimement liés avec cette idée de l'ascension. Et de là, j'aimerais qu'on se souvienne que on a bien aujourd'hui Jésus-Christ qui était et qui est parfaitement Dieu et parfaitement homme, qui règne sur l'univers. Et les autorités de ce monde, elles ne sont que provisoires, puisque ce roi des rois, qui règne déjà activement pour le renouveau du monde, établira pleinement son royaume quand voilà, il soumettra et on n'aura plus ces autorités qui potentiellement, voilà, de manière temporaire, continuent d'affirmer un pouvoir qu'en réalité, elles n'ont plus. Le deuxième aspect, je vous disais, après le roi, c'est celle du souverain sacrificateur. Et ça, c'est une réalité qu'on peut tirer de différents versets, mais notamment ces versets de l'Épître aux Hébreux, au chapitre 4, où on lit « Puisque nous avons un grand prêtre, un souverain sacrificateur, qui a traversé les cieux, Jésus, le Fils de Dieu, restons attachés à ce que nous reconnaissons publiquement. Car nous n'avons pas un grand prêtre insensible à nos faiblesses. Il a été soumis, sans péché, à des épreuves en tout point semblables. Approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce, pour obtenir compassion et trouver grâce en vue d'un secours opportun. » L'auteur de l'Épître aux Hébreux, ici, nous parle de ce grand prêtre qui a traversé les cieux. Je pense qu'on peut le lire aussi comme une allusion à cette ascension, le fait que Jésus a quitté la terre et a traversé les cieux pour aller jusqu'au trône sur lequel il s'est assis. Et Jésus a traversé, en réalité, non seulement les cieux, mais aussi tous les obstacles qui séparaient le pécheur de Dieu. Et quand on lit ces versets, je ne vais pas développer plus que ça toutes les allusions de l'Épître aux Hébreux à l'Ancien Testament, mais ici, il y a bien en contraste le jour des expiations, le Yom Kippour du livre des Lévitiques, où le grand prêtre traversait le voile pour entrer dans le lieu très saint, et il apportait, vous savez, le sang d'un bouc. Et Jésus, lui, a traversé, non pas le voile, mais il a traversé les cieux, et dans son propre corps, il a porté, les marques de ses cicatrices, c'est dans son sang, et non pas le sang d'une offrande qui n'était pas lui, c'est bien lui-même qui s'offre pour apporter la réconciliation avec Dieu, pour apaiser la colère de Dieu, pour nous réconcilier avec Dieu. Et le grand prêtre, vous savez, portait le nom des tribus d'Israël sur le pectoral, et Jésus-Christ, lui, porte nos noms dans les cieux, nos noms sont inscrits dans les cieux, et dans son cœur, dans son corps même, il inscrit nos noms. Et l'Épître aux Hébreux, ici, nous parle bien de la sympathie de Jésus-Christ, dans le sens où il a souffert comme nous. Il a souffert à notre place, mais aussi il a souffert comme nous, dans le sens où il a pris un corps semblable au nôtre, et tout ce que nous vivons, lui-même l'a vécu. Et ça veut dire que Jésus n'est pas rendu distant par l'ascension. Je vous disais, on a un peu de mal tout à l'heure avec cette fête, parce qu'on a l'impression que voilà, c'est Jésus qui est enlevé, qui devient distant, il retourne dans la gloire. Mais en fait, il entre dans la gloire avec sa nature humaine, il entre au ciel avec sa nature humaine. Et donc ça veut dire qu'au cœur de l'univers, sur le trône, il y a bien un cœur humain qui bat. Et celui qui est assis sur le trône et celui qui est le souverain sacrificateur nous comprend, non pas seulement parce qu'il est Dieu et donc il a une sorte d'omniscience, et ce qu'il a, une omniscience divine, mais il nous comprend aussi parce qu'il a vécu l'expérience humaine. Et le trône de Dieu, comme on le voit ici, est devenu un trône de grâce, parce que, justement, c'est un homme qui y siège, et que ce grand prêtre, dont on nous parle aussi ces versets, a vécu les choses de façon humaine. Et il a connu notre réalité, et aujourd'hui, dans le ciel, il emporte cette réalité avec lui. Et là, ce qu'on voit, c'est que l'ascension garantit notre accès permanent à la grâce. Jésus a ce sacerdoce éternel d'être auprès de Dieu, non seulement pour régner, mais aussi pour intercéder continuellement pour nous. Et quand on se demande, voilà, que fait Jésus aujourd'hui ? Eh bien, il prie. Il prie continuellement pour nous, son Père qui est devant lui, qui est à côté de lui. Il plaide pour nous. Et ça, c'est quelque chose qui, je crois, est de nature à nous réconforter, à nous encourager. Jésus intercède continuellement pour nous. Et si nous doutons un jour de notre salut, si nous doutons de notre relation avec Dieu, eh bien on peut se rappeler que Jésus, qui est pleinement Dieu mais aussi pleinement humain, plaide notre cause en permanence et qu'il veut notre bien et qu'il est en permanence auprès de Dieu en train de nous soutenir, en train de prier le Père pour nous. Et quelque chose que j'ai déjà mentionné dans ces deux réalités, à la fois du roi et du souverain sacrificateur, qui sont intimement liées, hein, c'est la même personne qui a les deux offices ensemble, c'est cette réalité de l'incarnation qui continue. Je pense qu'inconsciemment, on a peut-être l'idée que Jésus, qui était dans la gloire de toute éternité, s'est incarné, et que donc, quand il retourne au ciel, eh bien, il perdrait quelque part l'incarnation, et que cette réalité de l'incarnation disparaîtrait au moment où il remonte au ciel. Et en réalité, ce n'est pas du tout ce que dit la parole. Ce qu'on lit bien ici, et je l'ai déjà mentionné, c'est que Jésus n'est pas redevenu seulement Dieu, en quelque sorte, quand il est monté à nouveau au ciel. L'ascension, en réalité, affirme que Jésus est éternellement homme aussi dans le ciel. Il est au ciel avec ses mains percées, on a chanté tout à l'heure dans un des cantiques. Et c'est une réalité qui peut être difficile à saisir pour nous, de se dire, mais voilà, en fait, il a aujourd'hui encore cette nature humaine et en même temps divine au ciel. Jésus ne cesse pas d'être humain, parce que s'il cessait d'être humain, alors notre lien avec Dieu sera peut-être, en quelque sorte, à nouveau rompu. Alors que s'il est au ciel pleinement homme, ça veut dire que nous y sommes, nous aussi, en permanence représentés. Nous avons ce Jésus sauveur qui est parfaitement homme auprès de notre Père. Et ça, c'est quelque chose que nous lisons dans l'Épître aux Hébreux à nouveau, où on parle de Jésus comme notre précurseur. C'est celui qui vient en premier auprès de Dieu, représenter l'espèce humaine, cette nature humaine qui rentre dans la présence de Dieu. Et Calvin disait qu'il y a une sorte d'échange, il appelait ça un merveilleux échange, où il a pris notre condition pour nous donner la sienne. Donc il est devenu homme, et nous aujourd'hui, nous pouvons devenir quelque part divin parce que lui est entré au ciel et nous fait entrer avec lui auprès de Dieu. Et c'est le dernier aspect que je voulais souligner de cette réalité de l'ascension, de cette signification de l'ascension, c'est cette union vitale qui existe entre la tête, Jésus-Christ, et le corps. Je vous disais tout à l'heure, l'ascension ne crée pas une distance. Elle ne sépare pas Jésus de son peuple, elle ne sépare pas Jésus de l'Église. Mais en fait, elle crée une nouvelle forme d'union, qui est une union qui est établie par l'Esprit aussi. Et pour ça, je lirai, pour justifier ça, je lirai ces versets dans l'Épître aux Éphésiens, à nouveau. Dieu est riche de compassion et, à cause du grand amour dont il nous a aimés, nous qui étions morts du fait de nos fautes, il nous a rendus vivants avec le Christ. C'est par grâce que vous êtes sauvés. Il nous a réveillés ensemble et fait asseoir ensemble dans les lieux célestes en Jésus-Christ, pour montrer dans les temps à venir la richesse surabondante de sa grâce par sa bonté envers nous en Jésus-Christ. Voilà, trois réalités, il nous a rendus vivants avec le Christ, on est vivants ensemble, ressuscités ensemble, il nous a réveillés ensemble, et il nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes. Et c'est une vérité, une affirmation théologique qui est aussi parfois un peu difficile à saisir, de savoir que, oui, alors nous sommes ressuscités avec Christ, on peut à peu près envisager, il nous a réveillés ensemble, mais par contre, de savoir que nous sommes actuellement déjà assis dans les lieux célestes, on voit bien que c'est une réalité qui est donnée théologiquement à comprendre, mais qu'on a peut-être un petit peu de mal à saisir concrètement, puisque bien, physiquement, nous ne sommes pas en effet assis dans les lieux célestes, mais pourtant, c'est bien ce que l'apôtre Paul essaye de nous faire comprendre, que c'est bien notre position en tant qu'Église que d'être déjà là où est la tête. Nous sommes déjà assis dans les lieux célestes. C'est là que se trouve notre identité, et c'est là que se trouve notre situation, finalement, déjà, alors que nous ne sommes pas encore pleinement dans cette présence. Et ça, c'est quelque chose avec lequel divers théologiens ont essayé d'apporter une explication, mais j'aime bien la façon dont saint Augustin aborde ça dans le concept, lui, il parle de totus Christus, le Christ total. Et en fait, ce qu'il dit, c'est que le Christ n'est pas monté seul dans le ciel, il n'est pas, l'ascension ne concerne pas Jésus-Christ seulement, mais qu'il a réuni la tête et les membres en un seul homme. Et donc c'est bien cette image du corps et de la tête. Nous sommes tous ensemble là où est Jésus-Christ. Et donc l'ascension est la garantie de notre propre glorification future. Et donc ce que ça change pour nous, c'est que notre identité, elle n'est plus définie par nos circonstances terrestres, mais bien par notre position en Christ au ciel. Ce n'est pas ce que nous vivons au quotidien qui définit notre identité, même si c'est une réalité qui continue de se présenter à nous, mais notre position, spirituellement, elle est avec Christ, avec Jésus-Christ, dans le ciel. Alors, voilà, je vais essayer de conclure en essayant d'appliquer tout ça à notre réalité. Se dire, mais finalement, voilà, on sait ces choses, et on se les répète souvent, on a beaucoup de cantiques qui nous aident à y penser, on relit des textes, et puis chaque année, voilà, l'ascension, là, cette fête, nous permet de nous repencher sur ces réalités, à la fois de Jésus-Christ qui est le roi, qui est le grand prêtre, et puis la tête qui est déjà dans les cieux. Mais alors, qu'est-ce que ça change pour nous? Pourquoi est-ce que c'est important? Eh bien, je dirais, le premier aspect, peut-être quotidien, ça serait notre assurance dans la prière. Notre prière ne monte pas péniblement vers un Dieu qui est lointain. En réalité, elle est reçue par un frère, Jésus, qui nous appelle ses frères, et Jésus les présente au Père. Il est notre intercesseur, et constamment, il relaie nos prières et il prie pour nous. Et donc, c'est beau de pouvoir se rappeler que ben, voilà, je ne prie pas un inconnu. Je prie quelqu'un qui sait ce que c'est que d'être joyeux, qui sait ce que c'est que d'être fatigué, qui sait ce que c'est que d'être trahi. Il connaît, il a connu toutes ces choses pendant son ministère terrestre. Il a vécu ces choses dans son corps. Et aujourd'hui, quand je prie, eh bien, je peux avoir l'assurance que ma prière, elle est comprise. Elle est comprise et elle est relayée. Et ça, c'est, je crois, une incitation à prier toujours plus et à prier avec joie, de savoir que, eh bien, peu importe ce que je vis, eh bien, c'est entendu, c'est compris, c'est relayé. La deuxième chose, j'en ai déjà parlé, hein, et je remets ces versets de l'Épître aux Colossiens, mais ça change fondamentalement non seulement ma prière, mais aussi qui je suis, mon identité. Ma vie aujourd'hui, elle est cachée en Dieu, nous dit l'apôtre Paul. Si donc vous vous êtes réveillé avec le Christ, cherchez les choses d'en haut, le Christ est assis à la droite de Dieu. Pensez à ce qui est en haut et non pas à ce qui est sur la terre, car vous êtes mort et votre vie est cachée avec le Christ en Dieu. Si vous voulez, ma vie, elle est là et en fait, elle est cachée dans la vie de Jésus-Christ. Ma vie est cachée dans celle de Jésus-Christ. Elle est cachée en Dieu. Et ça, ça change tout. Le Christ est monté et notre vraie vie, elle est avec lui. Ça change mon rapport à ce qui... Voilà, avec toutes les choses de ce monde, on peut avoir beaucoup de difficultés dans cette vie. Moi, je suis un peu stressé. Mon rapport au stress va être changé par le fait que mon identité, ce n'est pas d'être stressé. Mon identité, c'est d'avoir cette vie qui est cachée en Christ. Vous avez demandé quelque chose sur Parcoursup et que vous ne l'avez pas eu, ben, ça ne change pas votre identité. Votre identité, elle est cachée en Jésus-Christ au ciel. Je prends ça parce que je vous regarde, mais voilà, ça peut être complètement autre chose. Mais votre réalité du quotidien, ce qui va vous occuper, vous préoccuper, c'est là, c'est vrai. Mais ce n'est pas mon identité, ce n'est pas ce qui me définit, parce que ce qui me définit, c'est que ma vie, elle est cachée en Jésus-Christ. Et toutes les tempêtes qu'on va connaître sur la terre, elles ne définissent plus qui je suis. C'est pas ça mon identité. Et ça n'enlève pas la réalité de ce monde, ça n'enlève pas ce qu'on peut vivre au quotidien, mais ça nous donne quand même une dimension qui est autre et qui nous permet quand même de remettre les choses en ordre et de remettre une hiérarchie et de se dire, ok, je vis des choses qui parfois sont heureuses, parfois sont malheureuses, mais en fait, c'est pas ça qui me définit moi. Ce qui me définit, c'est que Jésus-Christ est au ciel et que ma vie est cachée avec la sienne au ciel. Et quelle libération, n'est-ce pas? Quelle joie aussi de, voilà, de pouvoir repenser ça. Je pense que ça nous permet de souffler, ça nous permet de voir les choses autrement, ça nous permet d'avoir cette dimension éternelle et de lever les yeux, d'avoir le cœur aussi levé et de se dire, ouais, bon, ok, il y a des choses, mais c'est pas ça qui me définit, ça s'arrête pas là. Ayons le regard plus loin et soufflons et ayons ce repos que nous donne cette réalité. Et puis, il y a des choses qui concernent l'Église aussi, je vous disais tout à l'heure, sur le fait que voilà, Jésus est monté, il a emmené captifs les puissances, et puis il a fait des dons aux humains. Et je vous disais, voilà, il a distribué ses dons, le Saint-Esprit en premier lieu, mais aussi tout un tas de dons, c'est-à-dire des ministères, des talents, qu'il a distribué comme un roi généreux à son Église. Et donc ça nous parle de notre réalité aussi en Église, en tant que communauté. Nous avons chacun reçu ses dons et donc, mettons-les en pratique. Pensons au fait que Jésus-Christ, ce qu'il voulait et ce que Dieu voulait dans cette réalité de l'ascension, c'est de donner plus, toujours des choses qui, voilà, des dons qui sont là pour la communauté, pour l'Église, pour l'humanité dans son ensemble tant qu'elle est encore sur cette terre. Et il en résulte que nous ne sommes pas spectateurs. Et nous, si on a reçu des dons, c'est pour les utiliser et les utiliser de façon à manifester son règne déjà ici-bas, même si le règne n'est pas parfaitement établi. Nous pouvons déjà manifester le règne par la mise en œuvre de ces dons qu'il donne généreusement. Et c'est pour ça que j'aime bien ce verset, hein, quand les anges s'adressent aux disciples, on les a lus tout à l'heure, ces versets dans le premier chapitre des Actes. Les anges regardent les disciples qui eux, regardent Jésus, et puis finalement, il n'y a plus rien à voir. Et je lui dis, mais... Et les anges arrivent et disent, mais pourquoi vous restez là à scruter le ciel? Qu'est-ce qu'on fait maintenant, en fait? Pourquoi on va pas rester là? Et finalement, l'ascension ne nous appelle pas à une sorte d'évasion spirituelle où on continuerait constamment à regarder en l'air et puis... Et voilà, ça s'arrête là, non? Tout de suite, il y a un rappel et un envoi. Un envoi à aller vers les nations, à aller vers ceux qui ne croient pas encore en Jésus-Christ, mais aussi d'aller les uns vers les autres, d'aller vers notre prochain. Jésus s'est retiré physiquement pour nous donner l'Esprit-Saint et pour nous déléguer son autorité. Il n'est plus présent sur la terre, mais son autorité nous a été donnée pour continuer, ou pour déjà régner, en fait, et annoncer son règne qui sera éternel. Et donc, au travail, à l'école, dans nos relations... on a ce champ de mission qui est ouvert et le roi règne déjà sur ce champ et nous sommes appelés à régner aussi en quelque sorte pour lui déjà sur cette terre. Et ça nous, par conséquent, hein, on peut dire que c'est un antidote, l'ascension, à la dualité de nos vies. Mais ça découle vraiment de ce que je disais sur la mission. On ne sépare pas notre vie spirituelle qui serait tournée vers le ciel avec ce regard qui resterait en haut, avec une vie séculière, avec un autre regard, une autre personne quelque part, qui serait occupée des choses terrestres, bassement quotidiennes. En réalité, puisque Jésus-Christ est Seigneur de tout, eh bien, notre réalité quotidienne, elle lui est aussi soumise, et c'est là que nous sommes appelés à exercer aussi nos dons, et finalement à vivre au quotidien la réalité d'avoir Jésus-Christ comme Seigneur, comme Sauveur, comme grand prêtre, aussi assis sur le trône. Voilà, c'est toutes ces réalités mêlées, on les vit au quotidien et on n'a pas à séparer, je crois, notre vie spirituelle et notre vie séculière. Les deux sont intimement imbriqués par cette réalité de l'ascension. Et nous sommes ces ambassadeurs en exil que Jésus-Christ voulait. Nous ne sommes pas dans notre royaume, puisque notre royaume, notre citoyenneté est dans le ciel, mais nous sommes encore sur cette terre et nous sommes ambassadeurs de notre roi. Et puis c'est un antidote à l'anxiété, hein, ultimement, mais peut-être que ça rejoint ce que je disais sur l'identité. Dans nos moments de faiblesse, dans nos moments où voilà, on trouve que finalement vivre cette réalité est peut-être un peu difficile aussi pour nous parce que c'est une réalité qu'on ne saisit pas pleinement encore et peut-être que le chemin est un peu long et on peut s'user, se décourager. Eh bien voilà, l'ascension nous appelle à élever nos cœurs. C'est sursum corda, hein, disent certains. C'est élevons nos cœurs et c'est d'avoir ce cœur qui est tourné vers Jésus-Christ qui est au ciel et qui tient l'univers dans sa main et qui est Seigneur de tout. Ça nous rappelle et ça nous encourage sur notre chemin terrestre. Alors voilà, pour conclure, l'ascension et la session, le fait que Jésus est assis, l'ascension de Jésus-Christ, ça nous rappelle qu'il est monté pour remplir toute chose. Et il emplit la terre entière, le ciel entier de sa gloire. Et là-dedans, nous rappelons que notre humanité est honorée. Dieu ne veut pas nous désincarner. Au contraire, il a élevé notre corps, il a élevé notre chair, au sens physique, hein, pas le sens spirituel, mais il a élevé notre corps, notre chair, jusqu'à son trône. L'humanité est élevée jusqu'à son trône. Notre humanité est honorée. Donc, rappelons-nous que Jésus-Christ est monté en tant qu'homme, tout autant que Dieu, et que cette humanité, donc, maintenant, est dans la présence divine. Et l'histoire a une fin glorieuse. Ce même Jésus que nous avons vu élevé, eh bien, reviendra de la même manière qu'il est parti. C'est ce que dit la suite du credo qu'on a lu au début. Il viendra régner parfaitement, mais déjà, nous pouvons toucher un petit peu du doigt ce royaume. Et quelque chose qui est frappant dans l'histoire, aussi telle que la raconte Luc, mais aussi, je crois, telle que les premiers chrétiens comprenaient l'ascension, ils insistaient beaucoup, et c'est quelque chose que j'ai vu chez certains pères de l'Église, qui insistaient sur le fait que ce qui est marquant après le récit de l'ascension, c'est la grande joie des disciples. Et ils insistaient beaucoup dans les prédications antiques sur la joie de l'ascension. Et cette joie, je crois, c'est celle à laquelle on est appelé. Le monde tel qu'il est un peu chaotique, c'est vrai, mais n'oublions jamais, nous avons cet avocat qui est auprès du Père, nous avons un humain tel que nous, dans le ciel, qui prépare notre place, et c'est un sujet de joie, parce que c'est aussi notre identité que d'être avec lui, caché auprès de Dieu. Donc voilà quelques conclusions sur l'ascension, et j'espère que vous serez vous aussi encouragés à repasser ces réalités et à réfléchir à ce qu'elles signifient aujourd'hui dans nos vies que d'avoir ce grand Dieu qui a accueilli Jésus-Christ en tant que à la fois Dieu mais aussi en tant qu'homme auprès de lui.